Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à toutes et à tous.
L'essentiel commence ce soir par un défenseur de la liberté récompensé.
Alexei Navalny, la bête noire du Kremlin, s'est vu décerner le prix Sakharov aujourd'hui par le Parlement européen. Un prix pour saluer sa liberté d'esprit et son combat contre la corruption en Russie. Navalny empoisonné, aujourd'hui emprisonné. Nous serons en Russie avec notre correspondant en début de journal. Nicolas Sarkozy, lui, joue l'apaisement. Il a été convoqué par le tribunal hier pour témoigner dans l'affaire dite des sondages. Et aujourd'hui, il annonce qu'il répondra aux convocations, mais sans autre précision, on l'entendra. À suivre aussi le récit d'un couple qui a su rester philosophe face à l'horreur de la soirée du 13 novembre au Bataclan. L'armée française qui enquête au Mali autour de la mort d'une femme tuée par des soldats de Barkhane. La colère qui monte autour de la taxe sur les portables reconditionnés. Et pour finir, un voyage au rythme tranquille des trains régionaux. Le guide Michelin sort un guide spécial TER.
À 18h15, un jour dans le monde aux États-Unis ce soir. Où nous avons envie de prendre des nouvelles de Joe Biden qui, disons-le clairement, ne va pas très fort. Il a du mal à imposer sa politique, le président américain, pendant que dans le camp d'en face, on est déjà en train de préparer un après qui rime toujours avec Donald Trump, avec des dérèglements électoraux que l'on pressent déjà, avec un climat politique qui décidément n'est pas assaini. Et on y vient avec le premier invité ce soir. À 19h20, c'est le téléphone sonne et nous allons parler de maison individuelle ce soir. La maison avec un jardin, un non-sens écologique, économique et sociale, une impasse, a dit la ministre du Logement. Un peu trop vite, elle a provoqué un tollé, elle est revenue en arrière, mais ce qui nous incite à nous demander, de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de désir de maison individuelle? Elle est où, cette maison? Y a-t-il un nouveau modèle de maison individuelle, un nouveau modèle d'urbanisation à trouver? À vous de nous le dire au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc du fond de sa prison en Russie qu'il a reçu son prix.
Alexei Navalny, ennemi numéro un de Vladimir Poutine, s'est vu en effet décerner le prix Sakharov aujourd'hui par le Parlement européen, un prix créé en 1988 pour récompenser les défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie. Un choix assumé par le Parlement de Strasbourg afin de soutenir un homme aujourd'hui derrière les barreaux pour son combat. Écoutez la vice-présidente du Parlement européen, la Finlandaise Heidi Hautala.
C'est un honneur particulier pour moi d'annoncer la décision de la présidence d'attribuer le prix Sakharov 2021 à Alexei Navalny, l'activiste russe anti-corruption et partisan du changement. Alexei Navalny a fait preuve d'un grand courage dans ses tentatives d'instaurer la liberté de choix pour le peuple russe. Depuis plusieurs années, il combat pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans son pays. Cela lui a coûté sa liberté et presque sa vie. Au nom du Parlement européen, je demande sa libération immédiate et inconditionnelle.
Voilà, la vice-présidente du Parlement européen. Alors, comment cette annonce est-elle perçue aujourd'hui au pays d'Alexei Navalny en Russie, où son mouvement, rappelons-le, est aujourd'hui banni, interdit et lui condamné à plusieurs années de prison pour fraude? Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Sébastien.
Correspondant à Moscou, le Kremlin n'a toujours pas réagi, Sylvain.
Non, pas de réaction officielle, effectivement. Silence radio ici à Moscou, ce qui n'est évidemment pas le cas des partisans, des proches d'Alexei Navalny, dont beaucoup sont aujourd'hui en exil, mais qui jubilent sur les réseaux sociaux. C'est le cas notamment d'un de ses proches, l'ancien ministre de Vladimir Poutine, Vladimir Milov, aujourd'hui dans le camp des opposants, qui estime que c'est un message fort qu'envoie l'Europe à Vladimir Poutine et que le président russe doit, d'après lui, fulminer du fond de son bunker. Ce prix décerné à Alexei Navalny arrive quelques jours après un autre prix, le Nobel de la paix décerné au journaliste Dmitri Muratov du journal Novaya Gazeta. Autant le Kremlin avait félicité Muratov tout en précisant bien que ce prix n'était pas un bouclier pour le journaliste, autant cette fois il est possible qu'il n'y ait pas de réaction officielle. Vladimir Poutine prend toujours soin de ne jamais nommer Alexei Navalny quand on l'interroge sur son cas. Ce prix Sakharov arrive également dans un contexte de grande tension entre la Russie et la plupart des pays occidentaux. Il a clairement une portée politique. D'ailleurs, il a été immédiatement salué par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, alors que la Russie a annoncé précisément hier la fermeture de sa représentation auprès de l'Alliance Atlantique.
Sylvain Tronchet, en direct de Moscou, Vladimir Poutine qui ne réagit pas donc au prix d'Alexei Navalny, mais qui s'inquiète désormais face à l'envolée des cas de Covid dans son pays. Le président russe a ordonné une semaine chômée début novembre et imploré les nombreux récalcitrants à se faire vacciner. Lui est dans le viseur des sénateurs. cœur pour avoir négligé la gravité de la situation sanitaire dans son pays. Le président brésilien Jair Bolsonaro est aujourd'hui au cœur d'une commission d'enquête explosive sur l'épidémie de Covid. Un rapport vient d'être rendu public et demande l'inculpation du chef de l'État brésilien pour 10 crimes intentionnels durant la pandémie, charlatanisme, prévarication, mais aussi crimes contre l'humanité. Le Brésil, où la maladie a fait 600 000 morts, on y revient dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
Nicolas Sarkozy se rendra-t-il donc à la convocation des juges?
Les magistrats, en effet, du tribunal correctionnel de Paris lui ont imposé hier de venir témoigner dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Décision rarissime. Jusqu'ici, l'ex-chef de l'État se retranchait derrière son immunité présidentielle au moment des faits. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a eu l'occasion de s'exprimer sur la question. Il a choisi l'apaisement, mais réserve encore sa réponse définitive. L'ex-président, qu'il a dit en marge d'une séance de dédicace à Lyon devant un public conquis. C'est le reportage de Christophe Vincent.
Ils étaient 300, place Bellecour, à attendre une dédicace, une photo, à lui dire un mot gentil.
Je sais que vous avez pris votre retraite, mais vraiment, franchement, vous nous manquez. Hein.
Ou à le soutenir en ces temps difficiles.
On a bien l'impression qu'il n'y a que lui qui a fait des bêtises, qui n'en a pas fait. On s'acharne vraiment sur lui.
Hein. Ça fait toujours plaisir de rencontrer ces idoles politiques. Ça ferait vraiment plaisir que l'ancien président revienne. Mais bon, voilà, il faut que tout ça passe en priorité avant tous ces problèmes judiciaires qui sont pour moi un peu... On s'en prend un peu trop à lui.
Nicolas Sarkozy a réagi à sa convocation, notamment à un possible recours à la force publique.
Les forces de l'ordre sont assez occupées, ils n'ont pas besoin de s'occuper de moi. J'ai toujours répondu aux convocations qui m'étaient faites. J'aurai l'occasion de dire ce que je ferai calmement, mais il y a déjà bien assez de problèmes dans le pays, c'est pas la peine de faire un problème inutile. Je ne veux pas polémiquer. La Constitution prévoit un principe essentiel qui est la séparation des pouvoirs. Je ne suis pas au-dessus des autres. Je ne suis pas en dessous non plus.
Y a-t-il acharnement, lui demande-t-on. Nicolas Sarkozy sourit. Si je réponds, je participe à une polémique que je ne veux pas. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Au chapitre judiciaire, encore cette fermeté également du tribunal correctionnel de Metz qui a condamné à 6 mois de prison avec sursis l'enseignante Cassandre Fristeau, ex-membre du Front National, poursuivie pour avoir brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation anti-pass sanitaire. Le parquet avait requis 3 mois avec sursis. Nous partons maintenant pour les assises spéciales de Paris où se déroule le procès des attentats du 13 novembre 2015, la cour qui continue d'entendre les victimes du Bataclan. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Sébastien.
À la barre aujourd'hui, un couple au récit poignant de Hans et Lou, un jeune couple pudique et qui a su rester stoïque.
Hans, barbe et épais, cheveux châtains, yeux bleus, translucides, évoque à peine ses blessures à la barre. « Vous avez beaucoup de pudeur », lui dit gentiment le président, « mais vous avez subi des blessures extrêmement graves ». D'une voix étouffée, Hans montre son flanc gauche. Une balle de Kalachnikov lui a perforé le dos, éclaté la rate, troué le poumon et traversé le crâne. Quand on a survécu à ça, on s'en remet finalement, souffle Hans, qui a cru mourir dans la fosse après avoir perdu de vue Lou, son amoureuse. Lou, grands yeux noirs, arrive à la barre, raconte les tirs qu'elle n'a pas compris ce 13 novembre. Elle a cru que c'était le balcon du Bataclan qui s'effondrait. Puis elle a été projetée au sol par le souffle d'une balle. Mue par son instinct de survie, Lou a rampé. J'avais l'impression qu'il y avait un monstre derrière nous et j'essayais d'enlever très doucement la fermeture éclair de mes bottes à talons pour ne pas écraser les têtes en rampant. Au milieu des corps, Lou a pensé au manuel d'Épictète qui prône de ne pas avoir peur de la mort. Mais ça marchait pas. Je me suis dit c'est nul. Alors je me suis concentrée sur mon souffle. Je me disais t'es pas morte, jusqu'à atteindre la sortie de secours. 6 ans après, à la barre, Lou conclut stoïquement « J'ai vraiment conscience de la chance qu'on a d'être encore en vie. » Et pour changer de la philo antique, elle s'est mise au mot fléché. C'est un changement majeur d'identité, Blactel.
Sophie Parmentier avec, à la technique, Hélène Langlois en direct du Palais de Justice de Paris.
C'est la première fois que l'armée française reconnaît avoir tué une femme lors d'une opération au Mali.
Nous vous en parlions dans les journaux d'hier soir. Il y a 2 jours, en effet, les soldats français ont eu un accrochage au sud de Gao avec 2 individus à bord d'une moto. Une femme a été neutralisée par des tirs de la force Barkhane. Toute la question est de savoir si c'était une combattante d'un groupe armé ou une victime civile. Bonsoir Eric Biagala.
Bonsoir Sébastien.
On en sait un peu plus Eric ce soir sur cette histoire.
On sait que l'opération pose en effet quelques questions. La victime est-elle effectivement l'un des 2 fugitifs poursuivis par les soldats français et maliens? Il semble que les poursuivants aient perdu de vue ces fugitifs qui fuient à pied dans une zone boisée avant avant de reprendre un contact visuel avec l'un d'eux qui s'était arrêté à 200 mètres, explique le communiqué du ministère des Armées. C'est sur cette personne que les soldats font alors feu. Ils découvrent quelques minutes plus tard qu'il s'agit d'une femme, l'un des deux fugitifs ou une tierce personne. Le communiqué précise que cette femme était inconnue des villageois des environs. Ce qui est certain, souligne-t-on du côté du ministère des Armées, c'est que si la communication française autour de l'incident a été aussi rapide, c'est que les réseaux sociaux s'étaient localement emparés de l'histoire, propageant des informations tronquées ou falsifiées, comme quoi la victime était une fillette ou le jeune fils d'un chef de tribu, promouvant en tout cas la thèse d'une bavure. Autre question, celle des règles d'engagement. Les soldats de Barkhane sont-ils fondés à ouvrir le feu sur des personnes non ostensiblement armées ou évidemment menaçantes? À part le fusil d'assaut laissé près de la moto, aucune autre arme n'a été découverte. La force Barkhane a initié une enquête de commandement pour préciser le déroulement exact des faits.
Éric Biagala, un mot concernant un reportage que nous avons diffusé hier soir dans ce même journal. Un reportage sur un lanceur d'alerte biélorusse dénonçant viols et tortures dans les prisons russes. Certains extraits issus de vidéos vous ont choqué, ce que nous comprenons et nous en excusons. Dans l'actualité étrangère encore, cet attentat à l'explosif en plein Damas contre un bus militaire aujourd'hui, l'attaque la plus meurtrière depuis 4 ans dans la capitale syrienne, 14 personnes tuées, des soldats. Réplique immédiate de l'armée de Bachar el-Assad avec des bombardements sur Idlib, la dernière poche de résistance au régime. 13 morts, dont 4 enfants et une institutrice.
La taxe sur les téléphones reconditionnés est-elle un danger pour l'environnement?
Sujet technique, mais qui touche de près aux questions climatiques. Alors voilà l'enjeu, un projet de loi sur la mise en place d'une redevance privée sur les appareils reconditionnés fait débat. Une aberration de l'avis des acteurs de la filière. Une trentaine d'entre eux étaient réunis ce midi devant le Sénat, soutenus par des organisations de défense du climat. Sébastien Sabiron.
30 kilos de CO2 évité quand on achète un smartphone reconditionné. Est-ce qu'on veut agir?
Agir d'abord de façon symbolique, en détruisant à coups de masse des smartphones usagés ce midi devant le Sénat. Avec la taxe sur la copie privée, un appareil d'occasion coûtera en moyenne 10 euros de plus. Benoît Varin préside la Fédération du réemploi et de la réparation.
L'augmentation du prix va décourager des gens d'acheter du reconditionné et va surtout réduire les marges des reconditionneurs réparateurs qui n'ont pas les moyens, puisqu'on est en concurrence avec des acteurs internationaux qui, eux, ne payent pas ces taxes-là.
Une aberration économique, mais surtout écologique, insiste l'ONG Les Amis de la Terre, sa chargée de campagne Alma Dufour.
En 2019, c'était 1,22 milliard de produits électroniques qui ont été vendus. Donc ça fait à peu près 18 produits par habitant français. C'est absolument colossal. C'est dommage. En fait, le gouvernement est en train de reculer sur toute une série de mesures qui étaient là pour permettre aux gens d'enclencher la transition écologique dans leur vie.
Au printemps dernier, 1660 artistes, dont Jean-Jacques Goldman, Danny Boone ou Gims militaient pour que les appareils reconditionnés soient soumis à cette taxe. D'autres, comme le rappeur Sefiu, se placent du côté des reconditionneurs.
Attaquer un petit peu le secteur de l'occasion, c'est attaquer le public des artistes, des jeunes de banlieue, des gens qui viennent des milieux un peu plus précaires. C'est eux qui consomment ces produits émanant du secteur de l'économie circulaire. Il faudrait qu'on prenne bien le temps avant de prendre des décisions.
Cette mesure, incluse dans le projet de loi réduisant l'empreinte écologique du numérique, sera votée en deuxième lecture au Sénat le 2 novembre prochain.
Reportage de Sébastien Sabiron.
Allez, on termine, Sébastien, avec un nouveau guide Michelin consacré au rail et non plus à la route.
Oui, un guide Michelin qui propose d'oublier la voiture, Fabienne, pour parcourir la France en TER. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir.
C'est une petite révolution culturelle.
Ah, carrément une révolution culturelle, parce que depuis 1926, les guides verts nous faisaient plutôt voyager sur la route, logique, pour un fabricant de pneus. Mais en nous proposant 40 itinéraires à petite vitesse, en utilisant 40 lignes de TER comme Paris-Granville, Nîmes-Brioude, eh bien, Philippe Aurin, le directeur des guides, nous explique qu'il veut être en phase avec son époque. Et il paraît que ça correspond aussi aux demandes des lecteurs. On verra des lecteurs qui vont peut-être, en tout cas, voir les cheminots différemment.
Vous avez 40 témoignages de conducteurs de train ou contrôleurs qui vont vous raconter leur ligne, qui vont vous dire aussi quel est l'angle le plus beau, celui qu'ils préfèrent, qui vont vous raconter des anecdotes parfois rigolotes. Et cette dimension humaine, on l'introduit dans nos publications.
Et c'est vrai qu'en ce moment, chez les éditeurs de guides, la mode est au train. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouvel ouvrage ne sorte en librairie. Des livres de reportages comme Les en Italie, ou des guides pratiques comme celui consacré au train de nuit en Europe. Enfin, dernier petit détail, chez Michelin, vous le savez, on a la manie des étoiles et ils n'ont pas pu s'empêcher de décerner des étoiles aux gares pour distinguer les plus belles. Sans surprise, c'est la gare de Limoges-Célestin qui a été distinguée, une gare Art Nouveau créée en 1929.
Paris, Granville, au Nîmes-Brioude, je vous laisse le choix, Fabienne, pour vos futures vacances en TER.
Ah bah, moi, il y a toujours eu la vie du rail, figurez-vous, sur la table du salon à la maison. Sébastien, merci
voilà, vous
beaucoup.
Vous étiez déjà prête.
Exactement.